Bonjour, c'est Raphaël Marchal qui vous parle. Je suis journaliste culinaire et je termine toujours mon assiette. Bienvenue sur À côté de la plaque, le podcast qui parle de tout, sauf de bouffe. On connaît des chefs, leur parcours, leur terroir, leurs produits, leurs plats signatures, mais est-ce qu'on les connaît eux ? Leurs envies, leurs phobies, leurs croyances, leurs faiblesses, leurs lubies, leurs secrets, leurs combats, leurs drôleries, leurs contradictions, rien n'est moins sûr. Alors asseyez-vous et écoutez, deux fois par mois, sur Business of Bouffe. Salut Julien et merci d'être mon invité pour le podcast À côté de la plaque. Alors déjà, tu viens de m'avouer que tu ne savais pas ce que c'était qu'un podcast.
Tu commences bien toi. Mais je comprends pas, c'est pas une question ça.
Non, c'est pas
c'est
une
juste
question.
De quoi se moquer d'un Finlandais qui arrive à la capitale, c'est ça?
C'est
mais non, je croyais qu'on était filmé. Je savais pas que c'était juste une
en fait,
du son quoi.
C'est voilà, c'est comme une radio. En fait. Mais pour ta défense, je connaissais pas très bien le concept avant non plus.
Ah bon. Oui, mais alors, quand tu dis avant, c'est quand il y a 10 ans ou il y a
il y a l'année dernière.
OK. Bon, ça va, je suis pas trop en retard.
Alors, Julien, aujourd'hui, on va parler de tout sauf de bouffe. Est-ce que tu es prêt ?
Oui, je suis prêt.
Génial. Bon, je commence simple. Est-ce que un jour où tu travailles pas, évidemment, tu es un lève-tôt ?
Oui, maintenant. Enfin, je l'ai toujours été, mais qui plus est avec les enfants. Donc, tu n'as pas trop le choix, quoi, en fait. Donc, non.
Même si tu es sans eux, tu vas quand même être debout vers 8 heures, quoi.
Ah bah oui, oui. Et même avant. En fait, je ne dors pas beaucoup. Je me réveille très tôt. Et après, en général, je reste au lit. J'écris, je commence à bosser sur le téléphone, quoi. Je fais toutes les choses que je n'aime pas faire de la journée, je les fais de très tôt à 8 heures. Et après, je me lève pour les enfants.
Mais très tôt, c'est quoi ?
Ça dépend des jours, mais je sais pas, moi, 5-6 heures, quoi.
Ah oui, d'accord, tu dors vraiment très peu, en fait.
Ouais, je dors pas beaucoup. Après, j'ai des périodes où ça va un peu mieux, où je dors un peu plus, ça dépend. Ouais, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Donc on fait avec, hein. Tiens, on adapte la journée au sommeil, quoi.
Est-ce que, au-delà évidemment de ta femme et de tes enfants, tu es quelqu'un de très famille ?
Ah oui, je suis très, très, très famille. Donc j'ai eu la chance d'être, je pense, très bien élevé et très bien éduqué familialement, on va dire, qui sont des valeurs fortes chez mes parents. Et aussi d'à côté, puisque du côté de mon père, ils sont 13 frères et sœurs, et du côté de ma mère, ils sont 5. Donc tu vois, c'est toujours une très grosse famille. Donc, j'ai une quarantaine de cousins. Donc, si tu veux, nous, le moindre anniversaire ou mariage se transforme en fête du village, quoi, où on est 200 ou 300. Donc,
vous êtes numérotés ?
Eux, oui. Mais même moi, je ne sais même pas lesquels sont les plus vieux. Enfin, je ne sais même pas le nombre. Enfin, ce qu'ils se situent dans leurs années. Mais non, on se voit. Bon, moi, je les vois un peu moins, évidemment. Ça fait 15, 20 ans maintenant que je suis à Paris. Mais ouais, de ces valeurs familiales, on va dire, quand j'étais jeune, m'ont énormément fait de bien à ce que je fais et ce que je suis maintenant.
Oui, c'est clair. C'est beau. Hein. Julien, qu'est-ce qu'on ignore de toi ?
Qu'est-ce qu'on ignore ? C'est quoi ces questions ? Qu'est-ce qu'on ignore de moi ? Je sais pas. En fait, aujourd'hui, c'est difficile de dire ça avec les réseaux sociaux parce qu'on partage quand même beaucoup de choses. Mais moi, effectivement, je protège beaucoup ce côté famille. Enfin, je le protège. C'est même pas que je cherche à le protéger ou quoi que ce soit, mais j'ai du mal à le mettre en avant. Donc peut-être que c'est ça, en fait, c'est justement toutes ces valeurs familiales que j'ai et tout ce côté famille, parents, enfants que je vais pas trop partager, quoi. Je pense que voilà.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que je n'aime pas me servir de ma famille pour avancer ou gagner quelque chose. Je préfère avancer et gagner des trucs dans ma vie professionnelle pour leur servir à eux, pour le donner à ma famille. Donc, il m'est arrivé plein de choses désagréables, enfin le mot est faible, mais dures, on va dire, familialement. Mais voilà, personne ne le sait, donc je protège ça, en fait. Je ne veux pas me servir de ce qui m'est arrivé de mauvais pour avancer dans ma vie. Voilà.
Qu'est-ce qui t'agace le plus ?
Qu'est-ce qui m'agace le plus? Je ne sais pas pourquoi je répète tes questions à chaque fois. J'aime pas les gens faux et les gens mauvais, les gens malhonnêtes.
Et tu les sens, ces gens-là, tu les sens tout de suite?
Oui, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette belle et grosse faculté à voir quelqu'un travailler avec moi pendant une heure et je sais combien de temps il va rester avec nous, je sais dans quel état d'esprit il va rester avec nous et je sais s'il va nous faire une crasse ou pas. Et les managers me prennent pour un fou à chaque fois parce que 95% du temps, je tombe dans le mille.
C'est pareil dans ta vie perso pour les amis.
Et voilà. Et malheureusement, ben non, parce que ça me protège, mais c'est vrai que c'est. Mais dans ma vie perso, c'est un peu comme ça aussi. Donc, je suis pas quelqu'un, on va dire, à l'américaine, quoi, qui va être jovial, content, à faire des bisous et des câlins de partout dès le premier soir. Voilà, parce que j'ai été éduqué comme ça, peut-être, mais je le regrette pas, en fait, parce que. Alors, je dis pas que je juge. Mais je regarde et je préfère en fait passer plus de temps avec une personne avant de dire elle est magnifique ou avant de dire c'est un gros con quoi. Donc ça va dans les deux sens. Donc je préfère passer du temps et passer des moments qui montrent diverses facettes de moi aussi envers la personne que je rencontre ou de la personne que je rencontre envers moi et mes amis et ma famille quoi. Donc mon groupe d'amis est restreint et je m'ouvre, mais bon, tu sais, à la base, je suis très très timide, donc j'avais du mal à aller vers les gens automatiquement, quoi. Donc, je pense que maintenant, ça, j'en ai fait une force de cette timidité, donc j'ai réussi à la contrer.
Parce
pour,
que c'est difficile à croire, hein.
Oui, mais ben, tu m'as connu, enfin, ceux qui m'ont connu il y a 15-20 ans quand j'ai ouvert mon premier restaurant le savaient. Je n'ai pas mis le nez dehors pendant 2 ans et demi de la cuisine. Voilà, après, j'ai ouvert dans les Landes le deuxième restaurant. Et j'ai ouvert la cuisine exprès pour être devant les gens. Et là, j'ai passé 6 mois rouge comme une tomate, quoi. Mais encore il y a un an, j'allais au Monoprix faire les courses, je piquais un phare en arrivant à la caisse pour payer, quoi. Voilà, je savais que j'avais besoin de combattre ce petit truc. Et voilà. Donc ça rejoint ce que je disais pour pour les gens et mon ouverture de d'amitié. Mais je suis en train de changer là-dessus et puis voilà. Et puis bon, je sais pas. Moi, je trouve que c'est plus fort après quand je vois que les gens sont sains et simples et que ça match. Je suis d'autant plus ouvert, quoi.
Ça répond un peu à ma question suivante. Est-ce que tu penses être une personne influençable?
Je vais dire, je l'ai été. Oui, je pense que comme tout bon jeune qui commence dans le métier, t'es influençable, que ça soit professionnellement. Par une cuisine, donc tu essaies de reproduire un peu ce que tu as appris, et après dans la vie, pas trop quand même, un petit peu au début, ouais. Mais maintenant, j'ai quand même les pieds bien sur terre, donc quelqu'un qui veut me faire dire quelque chose, déjà ça me plaît pas, et encore moins quelqu'un qui veut me faire faire quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai rapidement ouvert, que j'ai ouvert jeune. Donc ça rejoint ce que je disais. Je l'ai été au début, mais voilà, j'ai ouvert jeune et pour faire ce que j'avais envie de faire et qu'on me le dicte pas, quoi. Mais je suis encore beaucoup comme ça. Donc non, je pense pas que je suis trop influençable.
Non, je pense pas non plus. Qu'est-ce qui te fait pleurer?
Qu'est-ce qui me fait pleurer? Mes gosses. Il y a beaucoup de choses qui me font pleurer. Je suis plutôt sensible. Je sais pas si ça se voit en fait sur les gens qui ne me connaissent pas trop. Mais même là, tu vois, je le dis et tu vois, j'ai un petit peu les yeux mouillés, quoi. Alors je sais pas si c'est, alors tiens, c'est des questions qui sont pertinentes et qui vont au fond, mais t'as raison, c'est très bien. Donc oui, je suis très sensible. Il y a pas mal de choses qui me font verser l'alarme, surtout les choses familiales et les choses où je suis déçu en fait de quelqu'un, mais ça peut être même tout simplement, tu vois, d'un employé. Bon, je parle beaucoup de mes employés, mais je passe beaucoup de temps au travail, donc mais quelqu'un qui me déçoit, je vais être très dur sur le moment. En général, c'est plus lui qui va pleurer que moi quand on va discuter, mais moi par contre, je suis capable d'en chialer le soir en le racontant à ma femme ou à mes parents, quoi. Et ma mère va beaucoup pleurer aussi, parce qu'on n'aime pas. Je pense que comme toute bonne mère, elle n'aime pas qu'on me fasse du mal, quoi.
Oui,
quelqu'un qui a été mauvais avec moi, oui, je suis capable d'en chialer derrière. Et dans la vie aussi, mais dans la vie, c'est rare que ça arrive, quoi. Je suis content de mes amis, de mes fréquentations, donc je suis rarement, on m'a rarement fait pleurer, on va dire, dans ma vie, quoi. Mais après, oui, pour des, dès que ça touche à la famille et tout ça, ça part facilement, quoi.
Est-ce que t'es féministe?
Je vais faire un peu le benet, mais exactement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que t'entends par là?
Oui, bah, c'est une très bonne question parce que beaucoup de gens sont pas à l'aise avec le terme. Est-ce que tu considères que c'est normal de se battre encore aujourd'hui en 2020 pour que les égalités entre hommes-femmes ne soient même pas une question, mais que ce soit acquis partout, quoi?
Non, bien sûr que non, que c'est pas normal, mais j'adore être avec des femmes, mais je parle professionnellement,
hein. Ouais.
et je l'ai toujours fait dès le début, enfin tu vois, j'ai la première affaire, ma responsable de salle et ma sous-chef et ma chef, quoi, c'était deux femmes extraordinaires à qui j'ai vendu mon premier restaurant. Donc bon, je sais pas si ça veut dire grand chose que je dis, mais j'ai toujours fait confiance aux femmes avec qui j'ai travaillé. Il y en a environ 20 à 25% dans tous mes établissements, j'adore ça, et qui sont au même salaire que tout le monde, qui sont considérés comme tout le monde, que je protège et que j'aide plus que les mecs, évidemment, parce que malheureusement, ça arrive que dans une cuisine, une chef dise à quelqu'un d'exécuter une tâche, et bien si je suis là ou si l'un de mes managers est là, tout va bien se passer, mais les jours où on n'est pas là, quand on revient de repos, ben elle nous dit j'ai un problème avec telle personne parce qu'il n'a pas voulu le faire. Donc c'est grave. Donc ça, moi, ça me met hors de moi. On fait de suite des grosses réunions et avec tout le monde, pas seulement avec les deux personnes concernées, pour mettre la honte à la personne qui n'a pas accepté ça. Et mais c'est triste que ça arrive encore. Nous, on se bat tous les jours pour pas que ça n'arrive dans notre petit milieu, on va dire. Mais voilà, donc moi, j'ai aucune différence entre un homme et une femme, que ça soit dans la vie, que ça soit avec mes enfants, que ça soit dans la vie professionnelle, que ça soit. Mais après, je peux pas dire que c'est un combat parce que je ne vais jamais parler de ça publiquement. Mais nous, dans nos affaires et sur les 150 personnes que je côtoie tous les jours, c'est le cas.
Génial.
C'est le cas, c'est l'inverse. je fais attention à ça.
est-ce que tu as une phobie ou une angoisse dont tu aimerais te débarrasser?
Phobie ou angoisse, j'ai pas de peur en fait. J'ai pas des phobies physiques comme l'avion, les araignées, serpents, mais pas du tout. Enfin, j'en ai pas. J'ai aucune peur, on va dire, physique. J'ai des peurs et des phobies sur les gens. Ben, ça rejoint un peu la première ou la deuxième question. Je déteste les gens cons, malhonnêtes et mal intentionnés. Donc j'y fais attention. Donc, pour moi, c'est une phobie. Donc, je fais attention aux gens que je rencontre et j'espère que j'arrive à les cerner plutôt vite. Je déteste ça. Donc, voilà, c'est ma phobie. C'est les gens mal intentionnés, quoi.
Et ça prend de la place, quoi. C'est-à-dire que
ça prend de la place, effectivement.
T'es en permanence en train de faire gaffe à ça.
Bon, attends, mais je suis pas malade non plus, hein. Tu me poses sur une table de bistrot avec 10 personnes. Je préférais savourer mon Ricard et mes cacahuètes et discuter, faire le con, que de juger une personne. Hein.
Mais si
y a une personne là-dedans qui vient me proposer quelque chose, un truc professionnel ou quoi que ce soit une semaine après, tu vois, je fais attention. Mais non, je ne fais pas attention à ça tous les jours dans ma vie. Je profite de l'instant présent. Mais si ces personnes veulent rentrer un peu plus dans ma vie ou quoi que ce soit, c'est peut-être une phobie. Mais c'est la seule. Après, tu vois, physiquement, j'ai rien. Alors là, je vais pas dire que j'ai peur de rien, mais physiquement, c'est le cas, quoi. Je vis.
Un vrai landé.
Ouais, je sais pas. Peut-être que c'est, ouais, mais t'as peut-être raison. Peut-être que c'est Sud-Ouest, rugby, et parents qui ont toujours avancé sans jamais se plaindre, qui me fait dire ça aujourd'hui, quoi. Et là, ouais, et puis la province, la nature, etc. Tu vois, d'être dans une maison avec tous les animaux de partout, effectivement.
Ah oui, tu cohabites, hein.
Ben voilà, t'as pas peur des animaux, quoi.
Non, c'est clair.
Voilà, et puis l'avion, non. Enfin, bon, c'est ça.
Ok. Est-ce qu'il y a un trait de caractère dont tu aimerais bien te débarrasser?
Oui.
C'est quoi?
C'est chaud tes questions, toi. C'est rare quand on arrive à parler de tout ça avec quelqu'un. Qui plus est, peut-être d'autres personnes qui vont écouter même. Mais je fais pas attention là. Oui, je suis rancunier. Donc,
ah, c'est vrai?
Ouais.
Je savais pas.
Ouais, si, je suis rancunier. J'avais du mal à mettre en mots là-dessus, enfin sur ce que c'était, sur la place que ça prenait en moi. Mais en fait, je l'ai vu et puis on me l'a dit. Un mec, il va me faire une crasse. Bon, attends, je parle de choses importantes, hein, on va dire.
Oui, oui.
Je vais jamais, enfin voilà, je vais pas l'oublier. Alors, je vais pas forcément, tu vois, me prendre la tête avec, parce que moi, je trouve qu'on peut tous faire des erreurs. Donc je vais l'avoir en tête, si tu veux, mais je vais pas en faire tout un foin, parce qu'on peut tous faire des erreurs. Une fois, la deuxième fois, ça m'énerve, la troisième fois, je pète un plomb. Donc, c'est ce que je dis souvent aux employés, et même dans la vie de tous les jours, quoi, même à mes enfants d'ailleurs. Enfin, voilà, de faire une bêtise une fois, tu vois, t'apprends à ne plus la faire. Donc, je fais tout pour apprendre à ne plus la faire. La deuxième fois, bah, tu fais un peu plus attention, et pour moi, bon, c'est soit ils jouent, soit ils testent. Que ça soit la personne que t'as enfin, je pense qu'elle joue, elle teste pour voir si ça va marcher. Et la troisième fois, ben évidemment, il faut commencer un peu à mettre des lois pour plus que ça n'arrive du tout, quoi. Et dans la vie, je suis un peu comme ça, c'est que quelqu'un qui fait une erreur, j'ai pas de problème, je vais pas forcément me prendre la tête, etc. Mais par contre, j'oublie pas. Donc la personne, si elle me demande quelque chose un an après ou qu'elle se plaint de mon attitude un an après, ben je vais ressortir le ce que elle m'a fait, quoi.
Ouais.
Donc c'est de la rancune, hein, on est d'accord. C'est pas très bon, hein. C'est pas très bon, mais je sais pas, je suis comme ça. Donc, ouais. mais par contre, ça marche dans les deux sens. C'est que la personne qui va me faire quelque chose de super bénéfique, donc je vais savoir dire merci parce qu'il y a quelque temps, j'avais même du mal à dire merci, si tu veux. Donc je vais savoir dire merci, mais ça, par contre, je vais jamais l'oublier non plus, quoi. Donc c'est pas bon d'un côté, mais ça a du bon aussi. Mais j'aimerais l'enlever quand même.
Ouais. Bon, ça va venir.
Oui, je pense.
Est-ce que tu as une passion un peu inexplicable, un truc que tu es le seul à aimer? Alors, ça peut avoir absolument aucun rapport avec ton métier, mais un truc où les gens, quand ils le voient, ils se disent « Ah, ça, c'est pour Julien, quoi. »
Ouais, il y en a une où je pense que tout le monde commence à savoir ce que c'est. Mais j'en ai plein de passions. J'en ai eu plein. Il y en a quelques-unes qui sont parties, évidemment. Mais j'en ai, je suis un mec passionné, donc ça fait ma vie, ça crée des problèmes parfois parce que ça prend beaucoup de temps. Mais il y en a une qui ressort le plus, c'est la pétanque. Alors c'est incompréhensible, personne ne comprend parce que c'est bon, moi je dis que c'est un sport, hein, mais c'est un sport, donc personne déjà dit que c'est un sport. Donc je le protège à chaque fois en disant que ben c'est le sport, le septième sport français avec le plus de licenciés, et c'est vrai. Donc, je trouve plein de trucs, tu vois, pour protéger ce sport qui me passionne, que j'ai goûté il y a une dizaine d'années connement en sortant, tu vois, en allant faire des apéros et jouant à la pétanque. Et maintenant je me suis passionné, donc je suis dans un club avec des cartes, des classements où tu marques des points pour pouvoir bénéficier de certains concours. Ça fait 3 années que je perds en demi-finale du championnat de Paris et j'ai la rage parce que mon rêve c'est d'être champion de Paris et pour aller au championnat de France, et je fais tous les mois des nationaux de pétanque, donc c'est des concours avec 1500 personnes partout en France, où je me barre pendant 3 jours, et en fait personne me connaît dans ce milieu. J'éteins mon téléphone et c'est ma psy, en fait. C'est mon calme. J'éteins mon téléphone, je parle pas, personne me connaît. Et puis ça va encore plus loin, c'est que bah, tu vois, j'ai croisé un pote que tu connais hier, Juan, et qui me connaît par cœur, et il passe devant le resto, il était 14h, il me fait « qu'est-ce que tu fais ? Tu vas encore jouer à la pétanque ?» Je lui dis « bah oui, je vais jouer au boule ». Et ça arrive même que voilà, que même les après-midi, je me casse avec mon scooter, mais j'ai toujours mes 6 boules de pétanque dedans, et je m'arrête à Vincennes, je m'arrête à Auteuil, et il y a des parties d'intérêt en fait avec des gens, et je joue au boule, quoi. Et ça me fait du bien.
Oui,
donc c'est peu, enfin, je pense incompréhensible. Je pense pas beaucoup qui comprennent cette passion qui est pratiquée par des gens qui s'en foutent de tout, quoi, par beaucoup de gens qui ne travaillent pas d'ailleurs et tout ça. Mais voilà, moi ça me fait du bien. Je sais pas, c'est ma petite activité qui me fait du bien. Tu n'as pas...
Là, elle est pas facile. Elle est pas facile, cette question, mais je pense que tu vas bien y répondre. Est-ce que tu t'aimes?
Oh putain, est-ce que je m'aime? Alors, tiens, rien que de le dire, tu vois, tu peux pas dire ça. Il y a personne qui peut dire ça. Je sais pas.
En France, il y a personne qui peut dire ça.
Oui, c'est vrai.
Juan, pas de problème.
Ah, c'est vrai?
Bah oui, parce qu'en fait, il me disait en Colombie, c'est pas une question. Enfin, c'est très français de pas avoir le droit de s'aimer. Il me disait, je travaille sur certains trucs et tout, mais j'ai aucune honte à dire que oui, je m'aime bien, parce que de toute façon, on peut pas aimer les autres si on s'aime pas soi. C'est marrant. Hein.
Alors, c'est très marrant que tu parles de lui, et on a passé le week-end dernier ensemble, à déguster du vin, donc évidemment, souvent alcoolisé. Et on a fini de nombreuses soirées à 5h du matin. Et il y en a une qui s'est écourtée parce que on a parlé du mot « je t'aime ». Ah ouais, je te jure. Et on était 10 à table et il en est venu à s'énerver, quoi. Et moi aussi, où je les défendais par... Mais parce que on était avec 3 familles et on expliquait qu'on n'a pas entendu le mot « je t'aime » de nos parents. Moi, maintenant, j'arrive à le dire à mes enfants. Je le dis beaucoup. Et mes enfants le disent énormément. Et le disent énormément même à mes parents, à quelqu'un qui va venir les garder 10 fois. Ils arrivent à le dire. Et c'est trop beau, en fait. Et je dis, mais pourquoi on n'est pas arrivé à dire ça avant? Et Juan a défendu son bout de gras pendant 2 heures. Et on en est venu à s'énerver énormément avec les personnes qui n'arrivaient pas à le dire et qui ne le comprenaient pas, en fait. Et moi, je le comprends. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Mais ça a gueulé fort. Bon, je ferme la parenthèse et pour répondre, moi perso, je peux pas le dire, je n'arriverai pas à le dire de moi, mais j'arrive à le dire maintenant, évidemment à ma femme, évidemment à mes enfants et à mes parents. Par contre, tu vois, c'est encore très dur. Donc il y a des moments très durs que l'on a eu dans notre vie familiale avec mes parents où on a réussi à se le dire, mais même là, je trouvais, alors c'est dur et il n'y a pas de méchanceté dans ce que je dis, mais même là, je trouvais que ça sonnait faux, en fait, parce qu'au moins on se le disait dans des moments très compliqués, et alors c'est dur de dire ça, j'espère que ma mère ne va jamais écouter ce podcast. mais je trouvais que c'était un peu inapproprié, puisqu'on se l'était jamais dit avant, et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, on n'arrive pas à se le dire non plus. Mais par contre, je suis très heureux d'entendre mes parents le dire à mes enfants, parce qu'ils le disent beaucoup, quoi. Donc je pense que le cap est passé, le passage est passé. Et tant mieux, et tant pis moi si je n'ai pas eu ça, mais j'ai eu tellement de choses de mes parents que pour moi c'est rien, en fait, c'est juste un mot, mais j'ai cet amour, je l'ai eu physiquement et pour tout ce qu'ils ont fait dans ma vie, quoi.
Bien sûr.
Et moi, non, et alors je vais même aller plus loin, c'est que moi je trouverais ça prétentieux de le dire, tu vois, en le disant de moi-même. Je n'arriverais pas à le dire parce que, je trouverais ça prétentieux, donc.
Je comprends.
Bon, voilà. Donc, je ne vais pas te le dire.
Je m'en doutais un peu. Julien, est-ce que tu es romantique?
Je pense que tu as dit plein de traceurs depuis tout à l'heure qui font dire que non. Entre sud-ouest, rugby, bourrin, la terre, pied ancré. Enfin, tu en as dit et moi, j'en ai dit. Je peux pas dire que je sois quelqu'un de très romantique. Mais j'ai fait plein de choses qui le sont, donc entre guillemets oui, et sans avoir besoin de regarder sur internet ce qu'il faut faire, etc., etc. Donc oui, ça, en fait, je l'ai pas vu non plus. En fait, j'ai pas été éduqué là-dedans, donc c'est pas facile. Tu sais, quand t'apprends pas de faire quelque chose, quand tu n'as pas appris à le faire, mais je le fais automatiquement et j'adore ça. Et même maintenant, j'arrive à râler quand la personne ne le perçoit pas.
Ouais, je vois.
Mais je fais plein de choses pour ma vie de couple. Et je pense que ça se passe très bien. Donc, la preuve que j'en ai un petit peu encore, que j'en ai un petit peu aujourd'hui. Pas encore, puisque c'est nouveau, mais j'en ai.
Est-ce que tu es religieux?
Non. J'ai eu tout ça. Ma maman est portugaise. Et donc, ma grand-mère est vraiment très catholique. Après, donc nous, j'ai eu droit à tout ça, au catéchisme, à la première, à la deuxième, communion, etc., etc. Mais je vais parler franchement, je préférais les fêtes à 40 personnes que ma mère invitée pour ma communion première et deuxième, j'ai plus de souvenirs de ça que du catéchisme,
ouais.
Où j'ai rien retenu.
Oui, je comprends.
Alors que ma grand-mère m'a amené à l'église, naniana, parce que pour elle c'était très important, et il y a eu des drames familiaux qui font que elle allait beaucoup à l'église. Moi, clairement, ça me saoulait, quoi. Donc aujourd'hui, non, je peux pas. Puis voilà, il nous est arrivé des choses qui font que on peut. Enfin, moi, je peux pas y croire, quoi. Voilà. Donc, est-ce que je suis devenu athée? Alors, j'ai parfois des réflexes par rapport à tout ce que l'on a appris au catéchisme et tout ça, qui me font demander des choses, demander des aides, etc. Alors, je sais pas, mais je peux pas dire que je sois religieux, tu vois, c'est difficile à exprimer ce que je raconte. Je sais pas d'ailleurs si c'est compréhensible, mais j'explique
oui,
un
je
peu.
Oui, je vois, ça veut pas dire que t'imagines Dieu, mais ça veut dire que parfois tu croises les doigts ou tu espères quelque chose, quoi. Bien sûr,
ouais.
On a tout ça, ouais.
Ouais. Ou je demande des choses à des personnes qui sont parties. Donc, est-ce
ouais,
que ça fait
d'accord.
partie de la religion? Pour moi, oui, mais peut-être que je me trompe.
Si,
mais après, je pratique pas, quoi, en fait. J'ai énormément de mal aujourd'hui. Enfin, d'ailleurs, je vais pas rentrer dans une église parce que, voilà, parce que les dernières fois où je suis rentré, c'était pour des décès, en gros, qui m'ont énormément bouleversé. Donc aujourd'hui, je n'arrive pas à rentrer dedans, quoi. Voilà. D'ailleurs, je me suis marié, mais on l'a pas encore fait à l'église et on a changé notre. On s'est dit, on s'est marié, on va dire à la mairie, et on a dit, on fera une grosse fête pour notre mariage dans 5 ans ou 10 ans. Mais tu vois, on a plus dit, on fera une grosse fête en faisant venir quelqu'un, mais dans un champ, mais pas dans une église. Tu
vois. Ouais, c'est beau aussi.
Ouais, c'est beau. Je pense que ça sera plus cohérent par rapport à ce que j'ai vécu, quoi.
C'est clair. Bon, j'arrête avec mes questions intimes. On va quand même parler
intense.
Un peu. Ouais, bah, écoute, je suis ravie des réponses en tout cas. On va quand même parler un peu de bouffe.
Ah. Hein,
parce que je m'adresse quand même à toi, gros mangeur que tu es.
Ah oui.
Quel est ton petit déjeuner idéal un jour où tu as le temps, un jour où tu as accès à tout voilà.
Alors, petit déjeuner. Déjà, je déjeune pas, donc je pars tout le temps ventre vide. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas faim en fait le matin. Je mange tellement la journée que je n'ai pas faim le matin. Mais effectivement, le week-end, si on traîne un peu, tu vois, pour moi le petit déjeuner idéal, ça va être des œufs poêlés, pas coques ni brouillés, mais des œufs à la poêle, bien croustillants, avec un bout de jambon ou de ventrèche dessus. Avec du ketchup, je sais pas si j'ai le droit de le dire ça, mais c'est la vérité. et voilà, des belles viennoiseries, du pain grillé, j'adore le pain grillé. Et plus thé que café, je bois pas de café. Donc, enfin, j'en bois très rarement. Et puis voilà, et de le partager. De le partager en famille, avec des fruits, etc., etc. Donc je fais beaucoup, beaucoup de petits déjeuners pour mes enfants, qui eux ont pris cette habitude et c'est, moi je m'étonne de les voir manger ce qu'ils mangent le matin, mais moi j'ai pas faim le matin. Ça vient, en fait je commence à manger en goûtant en cuisine tout ce qu'on prépare, tout ce que je prépare, tout ce que les mecs préparent, etc., etc., quoi.
Je vois.
Bon, ça me fait rire.
Je vois. Ça me donne faim, en fait. C'est un rire de faim. Et bah, écoute, formidable. Je te propose qu'on termine là-dessus, sur ces
œufs. Très bien. Ravi de toutes ces questions. Je ne m'attendais pas à tout ça. Mais tu as bien raison de partir sur ces sujets, parce que c'est vrai que ça fait du bien aussi de le dire, hein, parce qu'on a rarement des interviews comme ça. Donc, bravo pour le thème et bravo pour les questions.
Merci Julien.
Merci.
À bientôt.
Salut.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe 2 fois par mois. D'ici là, continuez à bien manger en parlant d'autre chose.